Voilà, bienvenue pour ce débat intitulé « Est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ?» Merci d'être si nombreux, puisque voilà, on peut commencer avec une salle pleine. Voilà, donc avant de vous présenter le débat, je voudrais par une citation. On va y arriver. Voilà, je voudrais, avant de lancer ce débat, honorer par une citation. La mémoire du pape François qui a convoqué ce jubilé et qui lui a donné pour thème l'espérance. Et avec son sens des formules, d'aucuns disaient des punchlines, il a dit un jour, ce n'est pas vrai que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est plutôt le contraire. C'est l'espérance qui maintient la vie, qui la protège, la préserve et la fait grandir. Alors, je vais maintenant vous présenter les intervenants de ce débat. André Comte-Sponville, vous êtes philosophe, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie. Vous avez longtemps enseigné, notamment à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont je vais citer le plus célèbre et le dernier paru. Alors, le plus célèbre, c'est le Petit traité des grandes vertus. Et le dernier paru, c'est un recueil d'études intitulé « L'opportunité de vivre ». Alors, je précise que ces ouvrages sont en vente au stand de librairie qui est à l'extérieur de cette tente. Voilà, et vous vous définissez, et j'espère que vous préciserez ce que vous voulez dire par ces mots, vous vous définissez comme un athée fidèle. Monsieur le grand rabbin Moshe Lewin, vous êtes grand rabbin du Rincy, vice-président de la conférence des rabbins européens, conseiller spécial du grand rabbin de France Haïm Korsia, vice-président de l'amitié judéo-chrétienne de France, et vous êtes engagé dans le dialogue interreligieux, et à ce titre notamment, vous avez cofondé un programme à Sciences Po qui s'appelle Emouna, qui est une formation à la gestion du fait religieux et à la laïcité. Monsieur Abdelghani Ben Ali, vous êtes imam recteur de la mosquée Al-Hachimi de Saint-Ouen. Vous êtes président du Rassemblement des associations musulmanes de Seine-Saint-Denis. Et vous êtes également enseignant et chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle et également à l'Institut des langues orientales, l'INALCO. Et enfin, Monseigneur Blanchet, Dominique Blanchet, vous êtes évêque de Créteil depuis janvier 2001. Depuis peu de temps, vous êtes prélat, en outre, prélat de la mission de France, depuis le 21 mai dernier. Auparavant, vous étiez évêque de Belfort-Montbéliard. Alors, je vous propose le déroulement suivant pour nos échanges. D'abord, un premier tour de table, où chacun sera invité à exprimer brièvement ce que signifie pour lui le mot espérance, disons à peu près 5 minutes chacun. Je précise l'ordre des prises de parole. D'abord M. Comte-Sponville, ensuite Moshe Lewin, Abdelghani Ben Ali et enfin Mgr Blanchet. Et ensuite une deuxième partie où chacun d'entre vous s'exprimerait un peu plus longuement, une dizaine de minutes, sur le thème qui donne son intitulé au débat. La croyance en Dieu est-elle une condition nécessaire à l'espérance? Et les interventions se dérouleront dans le même ordre. Et j'espère que nous aurons encore un tout petit peu de temps après pour débattre entre nous à la tribune et également avec vous. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Comte-Sponville, je vous donne la parole. Donc, d'abord pour cette première brève prise de parole sur la définition de l'espérance.
Bien, bonjour à tous. Alors, il faudrait en toute rigueur théologique distinguer l'espérance et l'espoir. L'espérance étant une vertu théologale, parce qu'elle a Dieu même pour objet. l'espoir étant plus modestement un sentiment, un affect. Autrement dit, pour les croyants qui sont ici, tant que vous espérez autre chose que Dieu ou que par Dieu, ce n'est pas une espérance, c'est un espoir. Mais pour l'athée fidèle, en effet, que je suis, athée parce que je ne crois en aucun Dieu, fidèle parce que je reste attaché par toutes les fibres de mon être aux valeurs qui se sont dites dans les grandes religions, spécialement dans les trois monothéismes, et spécialement parce que c'est mon histoire dans la tradition judéo-chrétienne. Ce n'est pas parce que je ne crois plus en Dieu que je vais cesser de percevoir la grandeur morale, humaine, spirituelle du message des évangiles. Mais tout fidèle que je sois, je suis athée. Et donc la distinction entre l'espoir et l'espérance, je l'ai évoquée par souci de précision conceptuelle, mais vous me permettrez de ne pas la faire pour ce qui me concerne. De mon point de vue d'athée, votre espérance n'est qu'un espoir parmi d'autres. Alors c'est quoi un espoir? Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, un désir qui porte sur l'avenir. Ou plutôt pas toujours, pas seulement. Il est vrai que la plupart de nos espoirs portent sur l'avenir, mais pas tous. Par exemple, si vous attendez votre fils ou votre fille qui doit venir chez vous en voiture, ils ont une heure de retard. Vous vous dites, j'espère qu'il n'a pas eu un accident. C'est une espérance, ça porte sur le passé. Et puis vous recevez un coup de fil, on est en panne. Une fois que vous n'ignorez plus ce qu'il en est, il n'y a plus d'espoir. Vous savez qu'ils n'ont pas un accident, ou vous savez qu'ils ont eu un accident. Dans les deux cas, c'est plus de l'espoir. Bref, ce qui signe l'espoir, c'est pas le rapport au futur, c'est que l'espoir, c'est un désir dont on ignore s'il est ou s'il sera satisfait. C'est pourquoi que la plupart de nos espoirs portent sur l'avenir, parce que l'avenir, justement, on ne sait pas ce qu'il sera. Mais voyons, on peut espérer aussi le passé ou le présent. Un ami que vous n'avez pas vu depuis plusieurs mois, vous dites, j'espère qu'il va bien. Ben oui, c'est une espérance, mais ça porte sur le présent. Donc, un, l'espoir ou l'espérance est un désir dont on ignore s'il est ou s'il sera satisfait. C'est pourquoi je dis souvent, espérer, c'est désirer sans savoir. Deuxièmement, c'est un désir dont la satisfaction ne dépend pas de nous, ou pas seulement. Par exemple, je pense que personne ici ne dira, j'espère me lever tout à l'heure. On a le désir de se lever tout à l'heure, personne ne compte rester ici toute la nuit. Mais on ne dira pas que c'est un espoir, parce qu'on sait que se lever ou pas tout à l'heure, ça dépend de nous. Ce n'est pas un espoir, c'est une volonté. La volonté, c'est un désir dont la satisfaction dépend de nous. L'espoir ou l'espérance est un désir dont la satisfaction ne dépend pas, ou en tout cas pas seulement, ni surtout de nous. Donc espérer, c'est désirer sans savoir. Espérer, c'est désirer sans pouvoir, par différence avec la volonté. Enfin, troisièmement, l'espérance, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas ou sur quelque chose dont on n'a pas la jouissance. Personne ne peut espérer être assis. Enfin, si, ceux qui sont debout. Mais ceux dans cette salle qui sont assis ne peuvent pas espérer être assis, justement parce qu'ils peuvent jouir de la position assise. Vous ne pouvez pas espérer m'écouter. Vous m'écoutez, là. Vous pouvez jouir de ça, si ça vous intéresse, mais ce n'est pas un espoir, hein. Donc espérer, c'est désirer sans savoir, c'est désirer sans pouvoir, c'est désirer sans jouir. Ben, vous comprendrez que moi qui préfère la volonté à l'espoir, et surtout l'amour à l'espoir, à la limite, moins j'espère, mieux je me porte. Pour une raison très simple sur quoi je termine, ben, c'est une formule de Spinoza. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Vous ne pouvez pas espérer rester en bonne santé sans avoir peur de tomber malade. Or, mon idée, c'est que le bonheur, c'est en gros le contraire de la peur.
Merci beaucoup, monsieur le rabbin.
Merci beaucoup pour la présentation et pour ce qui vient d'être dit. Permettrait de commencer par une petite anecdote d'il y a une petite demi-heure quand je suis arrivé. J'ai une personne qui est venue, qui nous voyait en train de discuter différentes religions ensemble et qui vient me dire « Vous nous donnez un peu d'espérance. » En fait, ça devait être un peu d'espoir. si. Mais en tout cas, elle m'a dit, vous nous donnez un peu d'espérance. Parce que c'est vrai que il suffit de faire marche arrière, et je voudrais commencer par cela, Monseigneur Blanchet, parce que nous retrouver ici, dans une fête organisée par le diocèse, n'aurait pas été possible il y a 60 ans. Vous savez peut-être que si cela est possible, c'est grâce à une déclaration qui s'appelle Nostra Aetate. Et je voulais en parler puisque cette année, le 28 octobre prochain, nous fêterons les 60 ans de cette déclaration qui a été fondamentale dans la relation de la religion chrétienne avec les autres religions, en particulier avec le judaïsme, qu'on a fait passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Donc je voudrais dire, nos parents, nos grands-parents auraient rêvé de nous voir ici, et c'est peut-être pour cela que cette personne m'a naturellement dit, vous nous redonnez un peu d'espérance. Au-delà de cette anecdote, lorsqu'on m'a proposé de réfléchir sur le thème de l'espérance, m'est venu en tête un verset particulier de la Bible, le verset de la Genèse, chapitre 49, où Jacob, sur son lit de mort, réunit ses enfants. Le verset nous dit « Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera à la fin des temps. » Mais il ne le fait pas. La suite du texte ne contient aucune prophétie. Au lieu de cela, Jacob donne des bénédictions à chacun de ses fils selon leur caractère, leur avenir particulier, leur tempérament et leur rôle dans l'histoire. Les sages du Talmud s'interrogent, mais pourquoi Jacob annonce-t-il une révélation sur la fin des jours pour ensuite ne rien dire à ce sujet? Et Rashi, l'immense commentateur de Troie, nous apporte cette réponse fondatrice et écrit « Jacob voulait révéler la fin des temps, mais la présence divine s'est retirée de lui et ne lui a pas permis de le faire. C'est-à-dire que l'esprit prophétique l'a quitté, l'empêchant de dévoiler à ses enfants la date, les circonstances de la rédemption finale. Mais pourquoi ? Pourquoi cette rétention du secret le plus fondamental de l'histoire ? Pourquoi empêcher Jacob de révéler ce que tant de générations allaient ensuite espérer et attendre avec ferveur ? Peut-être parce que connaître la date de la fin des temps aurait été une tragédie pour tous ces enfants. S'ils avaient su que la rédemption viendrait dans 500, 1000, 3000 ans, qu'auraient-ils fait ? Aurait-on pu leur en vouloir de désespérer ? Non. D'abandonner la lutte, les transmissions, les valeurs. S'ils avaient su qu'eux-mêmes et leurs petits-enfants ne verraient jamais la lumière de la délivrance, peut-être aurait-il arrêté là. Peut-être aurait-il perdu le courage de marcher, de prier, de se tourner vers Dieu. Voilà pourquoi, depuis des millénaires, le peuple juif continue à espérer. Et ce n'est pas une anecdote. Si, lorsque l'État d'Israël a été conçu, eh bien, elle a été faite par l'hymne national, elle a été faite par un non-juif, un juif non religieux plutôt. Et ça s'appelle la tikva, l'espérance. Non parce que cela décrit un aveuglement, mais parce que s'engager, espérer, c'est résister. Espérer, c'est construire. Espérer, c'est bénir, même sans tout comprendre. C'est cela la grandeur de l'espérance dans le judaïsme. Elle n'est pas une attente passive, mais un engagement. C'est une responsabilité. Espérer, c'est refuser la résignation. C'est-à-dire, même si je ne vois pas la fin, je choisis d'agir. C'est-à-dire, peut-être qu'elle viendra demain. Voilà ce que m'évoque l'espérance. Ce souffle que Dieu a refusé de retirer à l'humanité,
ce non-savoir fécond, ce vide qui nous pousse à toujours aller en avant. Et je voudrais citer cette anecdote rapportée dans le Talmud, qui est reprise par un commentaire de Avot de Rabbi Nathan, et qui nous dit, si tu es en train de planter un arbre, et qu'on te dit, le Messie est arrivé, termine de planter ton arbre, et va ensuite l'accueillir. C'est-à-dire l'espérance d'une action. Tu as le choix entre ce qu'on t'annonce, termine ce que tu es en train de faire, et après tu pourras aller l'accueillir. Et dans un monde souvent désorienté, parfois désabusé, l'espérance n'est pas naïve. Elle est courageuse, elle peut être, elle, aujourd'hui plus que jamais, un acte de résistance spirituelle.
Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Ben Ali, à votre tour.
Merci à vous, cher Guillaume Joubert, monsieur l'évêque, monseigneur Dominique Blanchet, grand rabbin Moshe, cher professeur André Comte Spouville, mes chers frères, mes chères sœurs, en humanité, tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Et c'est avec humilité aujourd'hui et gravité que je prends parole ici, en ce lundi de Pentecôte, à l'occasion de cette belle journée jubilaire chrétienne. J'ai appris que c'était tous les 10 ans. Hein, j'ai raté celle.
Sur la taille du rassemblement.
La taille du rassemblement, très bien. En tout cas, je vous remercie pour cette invitation. Et ce cadre, à mes yeux, n'est pas neutre. Il est chargé de sens, car il réunit les traditions spirituelles majeures de notre monde, les religions monothéistes, et la voie philosophique contemporaine de la post-métaphysique, si je puis dire, hein, du professeur, réunis pour réfléchir ensemble à cette question à la fois ancienne et extraordinairement actuelle. Pour la première partie, donc 5 minutes très brièvement sur l'espoir et l'espérance, l'essentiel a été dit, et que ce soit de la part du professeur ou du grand rabbin, il y a absolument un parallèle à faire, et en islam, c'est exactement la même chose pour les définitions entre l'espoir et l'espérance. Là où l'espoir reste un sentiment humain, immédiat, très souvent une émotion, comme vous le disiez, hein, monsieur le professeur, l'espérance est pour le croyant quelque chose d'un tout autre ordre, c'est un ordre différent. C'est plus un sentiment, une vertu, c'est une disposition intérieure pour le croyant qui oriente son âme, son esprit, au-delà de ce monde, d'où l'esprit métaphysique. Donc et c'est en ce sens qu'elle est différente. Et elle est liée indéniablement à Dieu. Cette connexion à Dieu pour le croyant, en tout cas pour le musulman dans les textes et les sources scripturaires, c'est un refus du désespoir. C'est ça qu'il faut entendre par cette espérance. Il y a un refus du désespoir, même dans les épreuves les plus difficiles. Et là, nous avons un fondement dans le texte coranique, qui est une référence extra-biblique, qu'on retrouve dans tous les textes révélés, de la sourate 539 et le verset 53, où il est dit « Dieu absout les péchés, pardonne tous les péchés. » Dieu, le verset commence précisément par une interdiction. Dieu interdit à l'homme de désespérer, donc d'être dans l'espérance. Le verset dit « Et ne désespérez point de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne absolument tous les péchés. » Donc vous voyez que quand on disait que l'espoir, qui a été brillamment introduit au début, est un sentiment, c'est une émotion, plutôt une émotion, on peut comprendre que l'espérance, c'est plutôt une direction, un cap. Et je dirais, dans ce monde de crise aujourd'hui, ce n'est pas tant d'espoir dont nous manquons, mais plutôt d'hommes et de femmes d'espérance.
Merci infiniment. Monseigneur Blanchet.
Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui, je crois, nous nourrissent et nous font réfléchir. J'espère y apporter aussi ma petite contribution à partir de notre perspective chrétienne, même si à un moment je citerai le catéchisme de l'Église catholique, je pense que nos frères et sœurs protestants pourront se retrouver dedans. Pour moi, l'espérance, je le définirais d'abord comme une ouverture. Quand je dis une ouverture, c'est... Il y a quelque chose de limite que je voudrais évoquer. Et une ouverture, un acte qui nous fait voir au-delà de nos limites. Et du coup, se pose la question en disant qu'est-ce qui nous permet de voir au-delà de nos limites ? D'où vient cette capacité ? D'ailleurs, est-ce une capacité ? Est-ce un rêve ? Qu'est-ce qui nous fait regarder au-delà de nos limites ? Karl Rahner, qui était théologien catholique, parlait de l'homme comme cet être qui a l'audace d'espérer. Et d'espérer justement au-delà des limites de notre condition humaine dans l'espace et le temps. Et jusqu'à maintenant, je pense que je n'invoque pas la question de la croyance ou de la foi. De regarder, d'oser percevoir notre réalité au-delà de nos limites. Et qu'est-ce qui nous conduit à pouvoir le faire ou à s'en sentir apte ou autorisé ? C'est peut-être ça la question. Est-ce que c'est de l'espoir ? On a déjà bien évoqué ces deux notions d'espoir ou espérance. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux ? Pour ma part, je pense oui, mais ce sera dans le deuxième point de débat. Est-ce un sentiment ? Est-ce une faculté ? Est-ce un désir ? Qu'est-ce qui nous fait regarder, aspirer au-delà de nos limites ? Pour ma part, je parlerai de l'espérance justement en la distinguant de l'espoir. L'espoir étant de percevoir au-delà de nos limites à partir de nos facultés, de nos possibilités, peut-être de penser. Mais en la reliant tout de même, en la reliant avec cette citation que je disais tout à l'heure de Karl Rahner, en la reliant parce que l'homme laissé à lui-même ne peut vivre sans espoir. Ça pourrait valoir d'en débattre. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter ? Ou bien est-ce que c'est une condition même de l'homme que d'espérer. Et en la distinguant, parce que l'espoir humain, pour ma part, je trouve que c'est ce qui s'appuie sur nos propres ressources, nos facultés. Et à ce titre, il peut être déçu. Peut-être je vais sembler pessimiste, mais ça rejoint peut-être ce que M. Comte-Sponville nous disait aussi tout à l'heure sur la posture par rapport à l'espoir. Parce que notre expérience, je ne sais pas quelle est la vôtre, nous fait apparaître souvent des espoirs déçus. L'espoir peut être déçu. Alors que l'espérance, qui est une vertu théologale, elle nous établit dans une relation avec Dieu. Ça veut dire que notre point d'horizon est ailleurs, nous sommes décentrés. Et pour nous, catholiques, nous définissons ainsi l'espérance. Et là, je fais une citation du catéchisme de l'Église catholique, vous direz, ça ne vous étonne pas pour un évêque, mais du coup, je vous donne cette citation parce qu'elle me semble assez claire. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons le royaume des cieux et la vie éternelle comme notre bonheur, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en nous appuyant non sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l'Esprit-Saint. Voilà comment l'espérance est définie pour nous. Dans l'Église catholique, dans la tradition catholique, dans la tradition chrétienne. Et pour terminer, peut-être, et là je convoquerai un penseur, un théologien protestant, un théologien de l'espérance, qui est décédé il y a peu de temps, Jürgen Moltmann, et qui distinguait, à travers espoir et espérance, lui, il distinguait le futur et l'avenir, en jouant sur le mot avenir. Le futur et l'avenir. Le futur étant le prolongement du présent et l'avenir étant l'inédit qui survient et dans lequel, et c'est là que peut-être la foi, enfin sans doute même la foi intervient, et bien dans lequel nous avons raison d'espérer.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir très bien respecté les consignes en termes de durée et ce qui ne vous a pas empêché de dire des choses véritablement importantes et qui introduisent très bien ce deuxième temps où donc il s'agit de répondre de manière plus développée, plus approfondie à cette question. Est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ? Et pour donner la parole à André Comte-Sponville, je voudrais avancer une phrase tirée d'un de ses livres, « L'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans Dieu », et qui est un ouvrage remarquablement clair. Et il y a cette phrase qui m'a frappé par sa vigueur. « Ce n'est pas l'espérance qui fait agir, c'est la volonté. Ce n'est pas l'espérance qui libère, c'est la vérité. Ce n'est pas l'espérance qui fait vivre, c'est l'amour. Monsieur Constantin.
Oui. Alors, ce qui m'intéresse dans cette question, est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ? C'est qu'elle autorise deux réponses parfaitement opposées. L'une qui dit non, l'autre qui dit oui. Vous allez me dire, il va nous faire une réponse de non, pas du tout. Parce que ces deux réponses sont de très inégales valeurs. Il y a une réponse superficielle et il y a une réponse profonde. À considérer la question superficiellement, est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ? La réponse est évidemment non. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour espérer qu'il fera beau le week-end prochain, pour espérer que votre fils ou votre fille va être reçu au baccalauréat, pour espérer la paix en Palestine ou en Ukraine. Pas besoin d'espérer, pas besoin de croire en Dieu pour espérer guérir si vous êtes malade, ou pour espérer rester en bonne santé si vous êtes malade. Donc, en première approche, superficiellement, évidemment, non, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour espérer. Et pourtant, alors pourquoi ? Parce que Spinoza a encore raison, il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Pour espérer, il suffit d'une seule chose, avoir peur. Soyez tranquille, vous espérerez toujours, moi aussi, parce qu'on est tous pleins de trouilles. Ça ne fait pas de l'espoir une vertu, mais ça fait de l'espoir une dimension de la condition humaine. Sauf que, et c'est pour ça qu'en profondeur, la réponse est oui. Oui, il est nécessaire de croire en Dieu pour espérer, parce que, qu'il fasse beau ou pas le week-end prochain, que votre fils ou votre fille soit reçu ou non au baccalauréat, qu'il y ait la paix ou non en Ukraine et en Palestine. Ça ne changera rien à la vérité décisive. On va tous mourir. Et donc, il y a dans la condition humaine, pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, pour les athées comme moi, quelque chose de désespérant à la lettre. On va tous crever. C'est ce que disait Alphonse Allais, humoriste un peu oublié du début du XXe siècle, qui disait joliment « Ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y aura aucun survivant. » Eh bien, c'est de là que je suis parti. Quand j'ai perdu la foi, vers l'âge, j'étais catholique, très pieux, très pratiquant, vers l'âge de 17-18 ans, ben, je me suis dit, au fond, que Pascal, Kant, Kierkegaard, alors trois auteurs chrétiens, mais trois génies, Pascal, Kant, Kierkegaard avaient raison de dire qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper au désespoir. Tout bêtement, la vérité. Il y a quelque chose de désespérant dans la culture humaine s'il n'y a pas une autre vie après la mort, s'il n'y a pas de Dieu. Sauf que l'erreur de Pascal, Kant, Kierkegaard, à mon sens, c'est de confondre ce désespoir qui fait partie de la condition humaine avec le malheur. Mais ça, c'est tout à fait autre chose. Parce que de même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, et il s'en faut de beaucoup. Parce que tant qu'on espère être heureux, c'est qu'on n'est pas heureux. Et quand on est vraiment heureux, à la limite, il n'y a plus rien d'autre à espérer. De même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, le désespoir n'est pas la même chose que le malheur. Et il suffit pour ça d'avoir terriblement peur et donc d'espérer formidablement. Moi j'ai perdu, nous avons perdu notre premier enfant. On vous annonce que votre petite fille de 6 semaines est atteinte d'une méningite fulgurante. Et pendant les 8 jours qui m'ont séparé de sa mort, j'espérais follement qu'elle guérisse. Et je vous jure que de toute ma vie, je n'avais jamais espéré aussi fortement que ça. Et je n'avais jamais été aussi malheureux. Parce que j'étais mort de trouille, simplement. Et donc c'est très curieux, quand on a été élevé dans le christianisme, de découvrir que votre moment de plus grande espérance est votre moment de plus grand malheur. Alors qu'en même temps, quand vous pensez à vos moments de plus grand bonheur, bizarrement, c'est des moments où vous n'espérez rien. Parce que vous avez une espèce d'extase musicale en écoutant une œuvre de Mozart au concert. vous promener avec votre meilleur ami quelque part sur, vers le Mont Mézin en Haute-Loire. Vous faites l'amour. Et dans ces moments de plénitude, vous n'espérez rien, mais vous êtes parfaitement heureux. Vous n'espérez rien et surtout pas que ça dure. Parce qu'une randonnée en Haute-Loire, vous savez que ça ne durera pas. Le Covid, ça dure encore beaucoup moins longtemps qu'une randonnée en Haute-Loire. Hein. Vous n'espérez rien et vous êtes pleinement heureux. Hein. C'est ce que j'ai appelé, au fond, le gai des espoirs. Ce que Spinoza appelle la béatitude. S'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, le sage qui est sans crainte, puisque la sagesse c'est la sérénité c'est l'absence de peur. Ah voilà, s'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, et si le sage est sans peur, sans crainte, il est aussi sans espoir. Et c'est ce que j'ai appelé la sagesse du gai désespoir, dont j'ai trouvé une formule. J'étais en train de terminer un gros livre en deux tomes, 800 pages, que j'avais appelé « Traité du désespoir et de la béatitude ». L'idée étant que les deux, désespoir et béatitude, vont ensemble comme les deux faces d'une même médaille. Et j'en ai trouvé le résumé dans un texte du Samkhya Sutra, citant lui-même le Mahabharata, donc l'immémorial livre de la sagesse hindoue. Et c'est une drôle d'expérience. Je terminais mon livre, j'étais à la page 700 et quelques, et j'ai lu en deux lignes le résumé écrit 19 siècles plus tôt du livre qu'avec ma façon d'occidentale bavard, j'étais en train de terminer. La formule est la suivante. Dans le Samkhya Sutra, on lit « Seul le désespéré est heureux. » Deux points et citation du Mahabharata. « Car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. Oui, c'est la version orientale de la chose. Mais quand je faisais mon petit traité des grandes vertus, il a bien fallu que je me coltine quand même avec les vertus théologales. Hein. La foi, l'espérance, l'amour, comme disent les protestants. La foi, l'espérance, la charité, comme disent les catholiques. Amour et charité étant deux traductions d'un même mot grec, et le grec agapé hein, dans les Écritures. Alors je citais dans le chapitre sur l'amour, évidemment, saint Paul, épître aux Corinthiens 1,13, sublime hymne à la charité, dans lequel saint Paul écrit en substance « Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas ». On est quelques-uns à avoir entendu ça à la messe des dizaines de fois sans que ça nous fasse beaucoup de problèmes. Heureusement qu'il y a des gênés pour nous aider à réfléchir, parce qu'un jour saint Augustin, relisant cette phrase, il en a fait un serment. Je dis, mais bon sang, ça veut dire quoi? Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Ou est-ce que dans le texte de l'Épître aux Corinthiens 1,13, il y a ces trois vertus. C'est là que saint Paul les cite, la foi, l'espérance, l'amour, la foi, l'espérance, la charité. Petit rappel, la plus grande des trois, c'est la charité. Je pensais à ça en regardant la librairie. On a bien le droit de s'intéresser à l'espérance, mais... N'oubliez pas malgré tout que de l'aveu de saint Paul, la plus grande des trois, ce n'est pas l'espérance, c'est l'amour. Enfin bref, il y a ces trois choses, la foi, l'espérance, la charité. Saint Augustin te demande qu'est-ce que ça veut dire, tout le reste passera. Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera? Et saint Augustin, avec le mélange de courage et de génie qu'il caractérise, écrit « Oui, ça veut dire ça ». Oui, ça veut dire ça, parce que la foi passera, parce que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu. On sera en Dieu. Ça ne sera plus la foi, ça sera la vision béatifique. Donc dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus de foi. Et dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus d'espérance, parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Et bien, de mon point de vue d'athée fidèle, j'ai envie de dire que le royaume, c'est ici et maintenant. Il s'agit d'habiter cet espace à la fois matériel et spirituel, où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître, et où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, ou à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Et le plus étonnant, et je terminerai par là, c'est que continuant mes recherches théologiques en quelque chose sur les trois vertus théologales, je tombe sur un texte de Thomas d'Aquin. Alors, pas n'importe où, dans la Somme théologique, hein, l'immense et géniale Somme théologique. Alors, ça a l'air de rien, mais entre Saint-Augustin et Saint-Thomas d'Aquin, il y a quand même 10 siècles d'écart. Mais enfin, c'est les deux piliers de l'Occident chrétien. Hein, c'est vraiment là où l'Occident s'amende. Alors, Thomas d'Aquin cite Saint Paul, Épître aux Corinthiens, 1:13, cite les textes de Saint Augustin que je viens de résumer. Oui, dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Il donne raison et à Saint Paul et à Saint Augustin. Sauf que Thomas d'Aquin ajoute ceci qui m'a singulièrement secoué. Thomas ajoute, d'ailleurs le Christ n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance. Et cependant, ajoute Thomas, il était d'une charité parfaite. Alors, comprenez-moi bien. J'entends bien que si pour Thomas d'Aquin, Jésus n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, c'est que Jésus était Dieu. Et que Dieu, par définition, n'a pas à croire en Dieu puisqu'il est Dieu. Et que Dieu n'a pas à espérer quoi que ce soit puisqu'on espère que ce qu'on ignore est que ce qui ne dépend pas de nous. Et que Dieu, étant omniscient, n'ignore rien et étant tout puissant, tout dépend de lui. Donc d'accord, c'est parce que Jésus était Dieu, pour Thomas d'Aquin, que Jésus n'avait ni la foi ni l'espérance. Il n'en reste pas moins que pour l'athée fidèle que je suis ou que j'essaie d'être, ça donne un sens très singulier et singulièrement fort à ce qu'un livre fameux qu'on ne lit plus guère appelait « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Parce que si Jésus, selon Thomas d'Aquin en tout cas, n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, ce qu'il s'agit d'imiter en Jésus, ce n'est pas la foi. C'est pas l'espérance, c'est l'amour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Moshe Lewin.
Oui, merci pour votre éclairage. C'est toujours difficile de parler après André Comte-Sponville, donc je vais essayer de le faire. La question donc qui est posée aujourd'hui, c'est est-il nécessaire de croire pour espérer? Et dans le judaïsme, elle invite à beaucoup de nuances. Et comme souvent, la pensée juive excelle justement dans la nuance et la complexité. La tradition juive n'affirme pas que la foi en Dieu est une condition indispensable et nécessaire à l'espérance. On peut espérer en l'homme, en la science, en la justice, en l'amour, en l'avenir. On peut même espérer en désespoir de cause quand tout semble perdu. Mais le judaïsme enseigne tout de même que lorsque elle est adossée à une foi vivante, l'espérance se transforme. Elle devient plus profonde, plus résiliente, plus créatrice. La foi, quelque part, donne des ailes à l'espérance. C'est ce que dit le prophète Jérémie dans l'un des versets les plus lumineux, écrit au milieu des ténèbres. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Dans le livre des Lamentations. Il ne parle pas ici d'une croyance dogmatique. Il parle de mémoire du bien, de la capacité de se rappeler qu'un autre avenir est toujours possible. Mais il y a un enseignement encore plus fort dans le Talmud, dans le traité de Berachot 10a. Même si une épée est posée sur le cou d'un homme, qu'il ne renonce pas à implorer la miséricorde. C'est une forme d'espérance sans aucune garantie. Elle n'exige pas une foi parfaite. Elle exige simplement de ne pas renoncer à la parole, de ne pas renoncer à la vie, même lorsqu'elle semble perdue. Je pense à cette phrase aussi que beaucoup attribuent à des survivants de la Shoah, et qui disait « Même si je ne crois plus que Dieu m'écoute, je continue de lui parler, car tant que je parle, je suis vivant. » Et tant que je suis vivant, je garde une part d'espérance. Nous avons tous vécu en 2020 cette crise existentielle qu'a été la pandémie du Covid. Et j'ai observé comme rabbin, comme citoyen, comme homme, que ceux qui avaient une foi, même fragile, ont pu affronter cette épreuve avec plus d'élan
et plus de verticalité et d'espérance. Je me souviens d'une vieille dame qui m'avait appelé au téléphone alors qu'elle luttait pour respirer et qui me disait « J'ai récité les psaumes de mémoire. Je ne savais pas si Dieu me répondait, mais moi, je lui parlais et ça me permettait de tenir debout. » De nombreux médecins m'avaient également confié avoir puisé leur force dans l'humanité des gestes, dans la conviction que chaque vie sauvée avait un sens infini. Et c'est cela l'espérance juive. Elle peut naître de la foi en Dieu, mais elle peut aussi naître de la foi en l'homme créé, lui, à l'image de Dieu. Et je voudrais également m'inspirer d'un homme qui était le prophète Job, un homme riche, immensément riche, qui avait tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Il est brisé au bord du désespoir. Pourtant, à travers son dialogue avec Dieu et ses amis, une chose frappe. Job ne renonce jamais à espérer, même quand il doute, même quand il crie sa douleur. Et dans le chapitre 13, verset 15, il déclare « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Cette phrase, elle est puissante. Elle nous dit que l'espérance ne naît pas toujours d'une certitude paisible. Job espère malgré tout. Il garde ce lien fragile avec Dieu, même quand il ne comprend pas le dessein de Dieu. Et effectivement, ce livre nous enseigne que l'espérance n'est pas un optimisme naïf. Elle ne refuse pas le doute ni la colère envers Dieu. Au contraire, elle les accueille. Parce que pour espérer, il faut parler, il faut se confronter, il faut exprimer sa vérité, même si c'est un cri de révolte. C'est une espérance qui ne ferme pas les yeux sur la réalité difficile, mais qui dit « Je suis là, je lutte, je parle, je refuse de me taire, parce que c'est ce qui me maintient en vie. » On raconte cette très belle parabole d'un enfant qui marchait seul dans une nuit extrêmement noire. Il tenait une petite bougie allumée. Quelqu'un lui demanda « Pourquoi allumer cette bougie si petite ?» alors que la nuit est si sombre. Et l'enfant répondit, même si cette flamme ne suffit pas à chasser un peu d'obscurité autour de moi, tant que je garde allumée la bougie, je peux marcher, je peux avancer. L'espérance, c'est comme cette petite flamme dans la nuit. Elle ne fera jamais disparaître toute l'obscurité, mais elle nous permet de continuer à avancer. La foi en Dieu, ou j'ajoute en l'humain, est cette flamme qui donne du courage pour affronter l'inconnu devant nous. Dans le contexte particulier que traverse notre société, le monde, marqué par tant d'incertitudes, de tensions, de défis, qu'il s'agisse de crises économiques ou sanitaires, de conflits multiples, de divisions sociales ou des menaces écologiques, il est facile de se sentir parfois découragé, perdu, voire épuisé. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que cette petite flamme d'espérance, allumée ensemble, et peut-être j'ajoute aujourd'hui, prend tout son sens et toute sa force. Cette lumière, même modeste, est un signe puissant. Elle nous rappelle que malgré toutes les ombres qui pèsent sur notre temps, nous pouvons avancer, nous pouvons bâtir. Elle nous donne le courage de persévérer, de la force de continuer, de bâtir, de rêver et d'aimer. Ce grand rassemblement d'aujourd'hui, Mgr Blanchet, est une petite lumière. C'est une journée pour faire la fête peut-être, pour partager cette fête avec les catholiques, mais pour partager cette espérance qui nous anime et qui donne tout son sens aujourd'hui. Elle est cette force qui nous permet de poursuivre notre route ensemble en véritable, j'ose utiliser un terme, pèlerin, Monseigneur, pèlerin de l'espérance. Je tiens à remercier du fond du cœur les organisateurs qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour rendre cette journée possible. Leur engagement est un beau témoignage d'espoir, de fraternité. Merci à Monseigneur Blanchet pour cette belle initiative qui nous rassemble et qui nous invite à avancer, j'ose dire, en espérant être la main dans la main. Merci.
Monsieur Ben Ali, à votre tour.
Merci. Alors, est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ? Cette interrogation, mes chers amis, simple en apparence, touche en vérité aux fondements les plus profonds de l'existence humaine. Le rapport à l'invisible, pour ceux qui croient en l'invisible, au sens, à la mort, au mal et à la possibilité de continuer à avancer malgré tout. Elle nous interroge donc sur ce qui porte l'homme quand tout semble s'effondrer autour de lui. Alors espérer est tout d'abord une nécessité humaine plus qu'une option. Avant même de parler de Dieu, je souhaiterais que nous parlions d'abord de l'homme. L'espérance n'est pas un luxe de croyant. Le professeur en parlait brillamment tout à l'heure. Elle est une condition de survie. L'homme, disait Pascal, est un être de désir, toujours tendu vers un futur qu'il ne possède pas. Un enfant abandonné espère encore être aimé. Une femme humiliée espère que justice lui sera rendue. Un peuple occupé espère sa libération. Un vieillard mourant espère que sa vie eût été ou sa vie ait eu un sens, à minima. Espérer, c'est donc refuser, comme je le disais tout à l'heure, toute forme de désespoir. Et le désespoir, disait Bernanos, est le seul péché vraiment impardonnable. Non pas parce que Dieu ne le pardonne pas, mais parce qu'il empêche l'homme de croire qu'il peut encore être pardonné. Dans notre époque, marquée par l'accélération, les crises, les violences, les sociétés numériques, outre les réseaux sociaux, la solitude aussi numérique, les effondrements écologiques, l'hyperconsommation qui ne comble rien, espérer devient un acte de résistance, je dirais existentielle. L'espérance dans la spiritualité, pour nous musulmans, elle s'inscrit entre verticalité et responsabilité. Dans l'islam, l'espérance n'est ni une option morale, ni un luxe mystique. Elle est une dimension essentielle et fondamentale de la foi islamique. Au même titre que la crainte révérentielle, at-taqwa, ou qualifiée également en arabe par al-khawf, forme de crainte, mais cette crainte révérentielle est toujours associée à l'amour, al-hubb. Le Coran nous proclame, ce que je disais tout à l'heure, que la même référence que tout à l'heure, le verset introductif, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » C'est ici l'un des versets les plus puissants de l'espérance dans le Coran. Il s'adresse à ceux qui se croient perdus, ceux qui se sentent, qui se pensent irrécupérables, condamnés. Dieu ne désespère jamais de l'homme. Donc l'espérance n'est donc pas une attente passive. Elle est un moteur. Elle pousse à se relever, à réparer, à continuer d'agir. Elle est ce que les mystiques musulmans, dans Tassawuf, appellent ar-raja en arabe, qui distingue ar-raja en arabe. Ce mot est devenu un concept. Mais c'est cette dynamique, justement, qui anime toute personne qui a un exercice spirituel intense de sortir de ce désespoir. Une confiance active dans la miséricorde divine. Le prophète Mohammed, que paix et salutations soient sur lui, dit dans un hadith, dans une tradition prophétique, c'est exactement la même référence que disait tout à l'heure grand rabbin, si l'apocalypse, la fin du monde arrive, donc c'est le cataclysme final, et que quelqu'un parmi vous a de jeunes pousses ou un plant, qu'il le plante quand même. Donc ça c'est une tradition qui est commune dans les religions monothéistes, comme pour certains versets coraniques qui ne sont que des références extra-bibliques, nous avons ce point commun. Et donc, même à la veille de l'apocalypse, de la fin du monde, le croyant musulman plante, il agit, il espère. Et donc, l'espoir en Dieu, c'est une réflexion, c'est l'exemple même aujourd'hui, ici, nous sommes réunis, je dirais, à plusieurs voix. le philosophe moderne que je salue et professeur, notamment à travers ses œuvres nombreuses, hein, première édition PUF, dont j'avais déjà lu la première, hein, et la dernière 2025, qui expose brillamment cela, il pense une espérance sans Dieu, il le dit, une forme de morale sans foi, une spiritualité sans transcendance. Je trouve ce travail très courageux, très rigoureux, sincère. Une question demeure en tant que croyant, même s'il a donné les deux réponses, oui et non. C'est un peu la réponse de toutes nos disserts de philosophie depuis la terminale. Mais la question, c'est: peut-on vraiment espérer sans qu'il n'existe un absolu qui garantisse cette espérance? Sur quoi s'ancre l'espérance d'un être humain face à la mort d'un enfant, disait tout à l'heure, à l'injustice totale, à l'échec définitif, à la maladie incurable, s'il ne croit pas en Dieu qui répare, qui ressuscite, qui rend justice? Dans les textes révélés, toutes religions confondues, nous avons ce point commun. Je ne dis pas que l'athée n'espère pas, bien au contraire. On a la brillante démonstration ce soir. Bien qu'il espère, mais l'espérance sans Dieu est pour le croyant musulman que je suis, nu. Non pas nu, mais fragile, sans promesse, selon le texte. Et pour le croyant, au contraire, Dieu reste la source, la cible et le garant de l'espérance. La sourate 65, le verset 3, le Coran nous dit: et quiconque place ou met sa confiance en Dieu, cela lui suffit. Donc les figures d'espérance, pour illustrer par des exemples, nous en avons à travers les âges évidemment et les temps, comme on pouvait, je voulais rebondir sur le prophète Job, mais ça a déjà été fait. Donc il me reste le prophète Joseph, Youssouf dans le Coran, ou fils de Jacob, donc Joseph, avec l'espoir et l'espérance qui sont en continu dans une des sourates centrales du Coran, qui est au milieu du Coran, qui fait un chapitre complet, où c'est la seule fois où on a l'histoire d'un prophète qui est raconté du début de sa jeunesse à la fin de l'histoire, avec un dénouement heureux. Et là, on voit l'espoir de Jacob, son fils, qui perd son fils, la jalousie des frères, et tous les épisodes que je vous invite à lire et à relire dans toutes les traditions religieuses, et vous voyez un peu l'espoir d'un prophète, fils de prophète, et puis comment, in fine, il se rend compte que celui qui a placé sa confiance en Dieu, même si c'est douloureux, même si ça a pris des décennies, in fine, le dénouement est heureux. C'est un prophète qui retrouve son fils prophète qui croyait avoir perdu à tout jamais. Donc les exemples qui illustrent aussi cette espérance, il y en a nombreux. En islam, on a le premier muezzin du prophète, le muezzin Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin affranchi, qui était torturé parce qu'il avait embrassé la foi, qui ne cessait de répéter « Ahad, Ahad », l'unique Dieu, le monothéisme pur, Dieu l'unique, et in fine, vous verrez que Bilal, lui-même, cet esclave abyssin franchi, fera des déclarations merveilleuses sur le fait d'avoir toujours eu confiance en Dieu. L'émir Abdelkader, plus contemporain, un lettré mystique, combattant, protecteur des chrétiens de Damas en 1860, c'est une figure religieuse musulmane et politique, qui a écrit: celui qui croit en Dieu ne craint ni la haine des hommes, ni l'injustice des rois. Et enfin, je terminerai par cet exemple, il y en a tellement, les musulmans résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, engagés dans la lutte contre le nazisme, au nom de leur foi, ce qui les motivait essentiellement, même s'il y avait des shérifs dans certains protectorats ou colonies, mais ce qui animait ces combattants musulmans qui sont venus au front, que ce soit pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était aussi cet espoir en la foi. La foi et l'iman. Je terminerai aussi par un point important, on n'en parle malheureusement pas assez, mais c'est aussi pendant les crises dans notre pays, en France, hein, on ne parle pas des imams qui construisent, qui bâtissent, ça passe sous le silence médiatique. On parle toujours de ceux qui fâchent, des minorités, de ce petit faible pourcentage qui ne représente pas la communauté musulmane, qui est mise en avant aussi, et ça c'est important pendant les crises, pendant les attentats et après. Les imams dans les quartiers, dans les banlieues, dans les villes, qui œuvrent inlassablement en silence. Ni leur travail n'est mis en avant, ce n'est pas le but. Ni c'est médiatisé, ça passe sous le sens médiatique. Et ça fait partie aussi de cet espoir, cette espérance qui est animée. On veut réparer, on participe à la vie citoyenne, c'est aussi important. Donc l'espérance religieuse, il faut que ce soit aussi, à mon sens, une unité sans confusion. Aujourd'hui, je suis à cette table avec vous, avec un rabbin, un évêque, un philosophe. Nous ne croyons pas tous la même chose, évidemment, mais nous portons tous une part d'espérance, chacun à sa manière. Le juif espère la venue du Messie, la réparation du monde. Le chrétien espère en la résurrection et en l'amour du Christ. Le musulman espère la miséricorde divine, le jour du jugement, la paix éternelle. Le philosophe espère en l'humanité, en la raison, en la fraternité. Nos espérances sont donc différentes, ne sont pas identiques, mais elles ne sont pas incompatibles. Au contraire, elles peuvent dialoguer, c'est la preuve, se nourrir, coexister. Donc moi je dirais, tout à l'heure quand on parlait de la souffrance et de l'espérance, c'est peut-on espérer quand on souffre ? Ben, c'est dans la souffrance que l'espérance devient lumière. Ce que disait le professeur dans la conclusion de son ouvrage quand il trouve cette citation qui est percutante et touchante, c'est dans la souffrance que l'espoir devient lumière, c'est dans la nuit que la foi éclaire. Et vous savez qu'en islam, nous avons une formule qui revient continuellement et inlassablement dans les épreuves, dans les douleurs. Le croyant dit et répète toujours « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » ce qui signifie qu'un verset coranique en français « Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous retournerons. » Un peu, nous mourrons tous, on va tous mourir à la fin. Merci.
Merci beaucoup. Monseigneur Blanchet.
Alors si je comprends bien nos échanges qui s'enchaînent, si puisqu'on va tous mourir, continuons le débat. Mais je pense que c'est vraiment très bien de merci beaucoup hein, de provoquer ainsi et de nous mettre devant le réel. Je pense que ça, c'est vraiment un lieu très important pour nous tous croyants d'accueillir cette interpellation qui vient de l'athéisme en disant sur quoi est reposée notre foi, peut-être sur la peur. Je dis peut-être moi qui suis croyant, mais je pense que ça vaut la peine de se poser la question et de pouvoir rendre compte chacun de pourquoi, en quoi notre espérance est solide et arrimée, et donc de rendre compte de notre foi. Pour ma part, je me disais, pour répondre à cette question, la croyance en Dieu est-elle une condition nécessaire à l'espérance ? J'avoue que c'est parfois une question qui m'inquiète, c'est-à-dire qui m'inquiète parce que je vois bien que dans notre monde, tout le monde ne croit pas en Dieu. Et si je réponds non à cette, si je réponds oui à cette question, je fais mal à l'espérance. J'abîme l'humanité. Je désespère des ressources de l'humanité. Et pourtant, je pense que la question est vraiment nécessaire à poser. Est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer. Et je reviens sur ce que j'ouvrais tout à l'heure avec Moltmann, qui distingue donc l'avenir et le futur. Pour expliquer un tout petit peu ça, si vous êtes dans une voiture, il vous reste à peine un kilomètre de carburant, à peine un litre de carburant, ce qui m'arrive régulièrement, eh bien, le prolongement du futur peut vous faire espérer que la voiture va continuer, mais un peu de bon sens, ça peut vous faire craindre que ça va s'arrêter. Et donc, espérer le prolongement du futur avec simplement votre litre de carburant dans la voiture, ça veut dire que ça va s'arrêter bientôt. Mais par contre, espérer avec cette notion d'avenir, il y a quelque chose qui vient, que vous ne maîtrisez pas, qui peut survenir, et qui est réellement aussi fondé, c'est peut-être une station essence pas trop loin. Ça doit pouvoir se calculer sur les cartes, donc on va l'écarter. Mais c'est peut-être la rencontre providentielle de quelqu'un qui va se trouver là à notre rencontre et qui va pouvoir engager les choses autrement. Et j'aime bien cette distinction que pose Moltmann entre le futur, prolongement du présent, et l'avenir, qui vient du coup de l'horizon. C'est un croyant, Moltmann, il est protestant, et donc il y a quelque chose d'une perspective eschatologique. On revient sur la question de la mort. À la fin des temps, que se passe-t-il ? Tout est anéanti, ou bien c'est la rencontre. Pour nous, croyants, c'est la rencontre. Une fois, j'avais discuté avec un moine de la pierre qui vire, qui avait 96 ans et qui espérait aller jusqu'à ses 100 ans, et je lui demandais s'il avait peur de la mort. Lui dit, est-ce que vous avez peur de la mort ? On n'était que tous les deux. Et alors, il me dit, vous voulez parler de la rencontre ? Je trouvais ça magnifique. C'est-à-dire que ça donnait une lumière sur tout son engagement. lui ne parlait pas de la mort, il parlait de la rencontre. Et donc forcément, on va se dire avec qui ? Et donc ça, c'est l'avenir. Et du coup, la question, elle est là pour moi. Je pense que si nous percevons un avenir, eh bien, alors l'espérance vient avec. Si, d'autant plus si nous espérons dans l'avenir celui qui vient à notre rencontre pour accomplir l'humanité et pour l'amener à son accomplissement. Et donc, du coup, je reviens à ma question. Dire ceci, c'est comme cela qu'est fondée mon espérance, c'est comme cela qu'est fondée notre espérance, nous chrétiens, puisqu'on va lui donner le nom de Jésus-Christ pour nous. C'est lui notre espérance, il est l'accomplissement de la promesse pour nous, la promesse de Dieu. Et donc, cette inquiétude en disant, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le partager ? L'espérance peut-elle se partager ? Pour ma part, si elle ne peut pas se partager, ça veut dire que quelque chose n'est pas porté suffisamment. Parce qu'on est vraiment de la même condition humaine, on est vraiment de la même humanité. Il y a quelque chose qui ne va pas au bout si on ne peut pas partager notre espérance. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire partager à partir de l'avenir ? Peut-être les perspectives. Il y a du monde avec qui nous partageons, et nous partageons des projets heureux, des hommes, des femmes de conviction. Ça peut s'inscrire parfois dans un parti politique, dans un projet politique. Il y a de la conviction qui vient faire regarder le monde autrement et quand même avec une notion d'avenir. Mais si on regarde du point de vue de Dieu, pour nous, chrétiens, croyants, je pense que musulmans, juifs et chrétiens, nous nous retrouvons là, il y a la volonté de Dieu de rassembler l'humanité et de rassembler avec une perspective heureuse. Et donc cette unité du genre humain ou encore un monde dans lequel chacun a sa place, notamment les plus fragiles, je me dis, mais qui ne peut pas désirer ça ? Peut-être on ne peut pas dire qui ne peut pas espérer cela, mais au moins en termes de désir, qui ne peut pas désirer cela dans notre humanité ? Et donc, peut-être que là, il y a un angle de partage qu'on peut se partager, qu'on peut partager. Mais comme je le disais tout à l'heure, les limites de l'espoir humain, c'est que l'espoir peut être déçu, il est souvent déçu, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux à espérer ? J'entends ce que vous nous rappelez avec Spinoza, et puis d'autres traditions, ou ce que vous avez rapporté de la tradition hindoue. J'entends tout à fait ça. Est-ce qu'il n'est pas plus sage de ne pas espérer, parce qu'on risquerait de fonder notre existence concrète aujourd'hui sur du rêve et sur quelque chose qui n'est pas réel. Et en même temps, pour nous, eh bien, nous tenons, et c'est là que nous avons une vraie chance, il me semble, comme chrétiens, à condition de pouvoir professer notre foi en même temps, c'est que cette espérance, c'est le texte de l'Écriture, c'est celui repris par le pape dans la bulle d'ouverture du jubilé. Je le cite, « L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. » Je trouve que ça ressemble à ce que vous évoquiez sur la miséricorde. Et donc, l'horizon reçu pour nous dans la révélation, c'est le nôtre, mais pour nous, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un rêve, c'est le contenu de notre foi. Et donc la foi s'articule forcément avec l'espérance. Foi, espérance et charité, et foi, espérance et amour se conjuguent, et celle qui dure, celle qui ne passe pas, c'est la charité. Et j'ai beaucoup aimé votre méditation, ce que vous nous avez apporté avec saint Augustin, saint Thomas, pour nous rappeler ce mystère quand même, que finalement, enfin ce mystère en même temps, cette évidence que dans l'éternité, il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'espérance, mais la charité, c'est la règle de vie, la règle de la vie éternelle. Mais du coup, la charité, il me semble qu'elle est mue par l'espérance et portée par la foi. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas l'espérance, on n'a pas de charité, bien sûr. Mais peut-être on la pratique autrement. J'ai pour ma part un très bon ami qui est... J'ai 59 ans, je vais avoir 60 ans, on est du même âge, on s'est connus étudiants, ça veut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Moi, quand je redécouvrais ma foi quand j'avais 19 ans, lui était athée, il est toujours athée, c'est un très très bon ami. Et quand on échange, lui, là où il dit qu'il nous trouve étonnants, nous les croyants, c'est en raison de notre espérance. Par exemple, il me dit... Moi, quelqu'un comme Mère Teresa, mais on pourrait citer beaucoup d'exemples, m'étonne. Je me dis, comment se fait-il qu'elle se soit embarquée dans une affaire pareille ? C'est son espérance qui l'étonne. Et donc, j'ai cherché avec lui d'autres exemples athées où on pourrait trouver ça, ce même ressort. Et du coup, ça rejoint peut-être la question du moteur aussi. Du moteur, où est notre moteur pour agir et pour la charité ? Non pas la charité qui est la courtoisie ou le fait d'être bien les uns avec les autres, mais la charité qui consiste à donner de soi pour le bien de l'autre. C'est ça, l'agapé. Eh bien, où est le moteur pour une telle décision ? Et alors, j'aime beaucoup ça, parce que je crois que ça se maintient en lui, il faudrait que j'en reparle avec lui, parce que ça fait un petit moment qu'on avait discuté de ça, mais ça m'avait touché qu'il perçoive chez nous une espérance qui l'étonne. Pour ma part, ça me permet aussi de me présenter peut-être à ceux qui me connaîtraient moins. J'ai dans l'Évangile une page particulière qui me porte, qui est celle de la multiplication des pains dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6. Et dans ce passage de la multiplication des pains, il y a 6 passages dans les Évangiles, il y a Jésus qui est devant une foule qu'il faut nourrir. Et il se tourne vers Philippe en lui disant, « Philippe, d'où trouverons-nous assez de pain pour nourrir cette foule ?» Et Philippe, lui, marche avec ses capacités. Et il dit, j'ai fait le calcul, 200 journées de travail ne suffisent pas, c'est mort. On ne peut pas. C'est dit plus proprement dans l'Évangile, mais c'est ça. Et puis il y a André qui voit un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Et il dit, il y a bien là quelqu'un qui a 5 pains et 2 poissons. Et il dit, parce que c'est un homme sensé, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Et c'est assez curieux qu'André présente ses 5 pains et ses 2 poissons à Jésus, et puis qui nous donne la multiplication des pains, le récit sur le pain de vie. Pour ma part, je suis très touché par cette petite histoire, et souvent je me rappelle ça, en me disant, je peux pas, il y a des grands défis dans le monde sur lesquels je peux pas changer, je suis pas tout puissant, je suis pas ça, mais j'ai peut-être mes 5 pains que je peux offrir. Et sans l'espérance, je le fais pas. Parce que je me dis, c'est l'histoire du colibri aussi. Il me semble comme là, ma foi me porte. Il me semble que la foi porte ça. Voilà. Donc ça, c'est le point sur lequel peut-être ça me semblait être le plus important et qui, du coup, va transformer. Tout à l'heure, Moshe Lévy nous a parlé de Jérémie. Où c'est cet accomplissement de la promesse. C'est ça qui est particulier. C'est qu'il y a la promesse dont on sait qu'elle est accomplie. Donc ça transforme tout lorsque nous avons cette foi en l'accomplissement de la promesse. Vous avez évoqué Jérémie. Et pour nous, nous voyons l'accomplissement de la promesse en Jésus, dans la résurrection. Mais ça change tout de notre façon d'agir. Et il me semble que les chrétiens n'ont pas à servir l'humanité pour que le monde demeure ce qu'il est, mais pour qu'il soit transformé, pour qu'il change et qu'il devienne, non pas à partir de notre propre conception, mais à partir de la promesse de ce qu'il est promis qu'il soit, c'est-à-dire un monde où l'harmonie, le progrès entre les peuples se travaille. Alors on peut dire, il y a encore beaucoup de travail, on peut regarder la réalité comme cela, mais soit on regarde la réalité en disant, comme Philippe dans l'Évangile, c'est mort, on n'y arrivera pas, soit on y entre nous-mêmes, et dans l'aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est ici et maintenant. Bien sûr que ça nous connecte, mais c'est une connexion entre la fin des temps et aujourd'hui. Et parler de la vie éternelle, c'est pas après la mort, c'est maintenant. La charité, c'est pas après la mort, c'est maintenant. Et c'est parce que je vis la charité que je peux espérer vivre éternellement. C'est par la charité que je vis éternellement. Et donc c'est maintenant. Et là, il y a quelque chose qui nous concentre vraiment sur l'instant présent, sur le maintenant, et qui a une force de transformation. Et enfin, je termine sur cette question de « est-il nécessaire de croire en Dieu pour espérer ?» Cette inquiétude dont je vous parle en disant « mais c'est précieux que nous puissions partager l'espérance ?» Je la partage de temps en temps avec des maires, avec des élus, ici aussi en Val-de-Marne, je l'ai fait une fois ou l'autre, en disant « on a une belle devise ». Liberté, égalité, fraternité. Pour moi, fraternité, comme chrétien, je la vois et elle est fondée sur le fait que nous avons tous un même père. Ce n'est pas le père des cathos, c'est le père des hommes. Nous avons tous un même père. Et c'est ce qui fonde notre fraternité. Et lorsqu'elle est abîmée, blessée, c'est ce qui fonde qu'il va falloir la restaurer, la réparer. Mais quel est, et souvent c'est ce que je demande aux maires, quel est le socle qui porte le fait que nous sommes tous frères et sœurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on ne décide pas qu'un tel ou un tel, il est un peu moins frère que les autres, il est un peu moins sœur que les autres? Qu'est-ce qui fait qu'on se regarde avec cette sorte d'absolu? Je pense que le débat actuel sur la fin de vie participe de ce débat-là. Comment regarde-t-on la personne qui arrive en fin de vie? Quel est le socle qui porte cela? Quel est cet absolu? Et je pense que là, on a matière, on a intérêt même à partager là-dessus. Et puis après, en discutant de ça avec les maires, souvent ils accueillent cette question. Et puis ils m'apportent eux-mêmes comment ils essaient de poser dans l'espace public des lieux symboliques qui aident à lever le regard, qui aident à voir plus loin que nos difficultés. Et j'aime assez pouvoir parler de ça avec eux. J'aime beaucoup, du coup, dans nos rencontres interreligieuses, parce que nous sommes ensemble fils d'Abraham, et qu'Abraham est celui qui a espéré contre toute espérance, qui était vraiment le père de l'espérance, et qui nous fait lever les yeux. J'aime souvent citer le pape François aussi, qui invitait dans nos rencontres interreligieuses, si parfois on avait des difficultés à s'entendre, qu'au moins on puisse continuer de lever les yeux vers le ciel et de compter les étoiles, qui nous indique la promesse pour laquelle nous sommes faites. Et cette espérance, elle nous tient, elle fait de nous des pèlerins. Et merci d'avoir repris la formule aussi pour vous. Elle fait de nous des pèlerins, et nous sommes fils d'Abraham. Abraham, c'était un pèlerin. Quand Dieu lui dit d'aller, de quitter sa terre et d'aller vers là où il lui indiquerait, ma foi, il fait d'Abraham un pèlerin, un itinérant pèlerin. Pas un itinérant errant, mais un itinérant pèlerin qui sait vers où il va. Et ça, c'est très important que nous puissions avoir cela en commun. Voilà, je terminerai simplement là-dessus, mais avec cette question peut-être ouverte, je ne sais pas, de dire si, je pense qu'on est déterminé quand même par le point d'horizon que nous percevons. Si le point d'horizon, moi j'ai souvent discuté de ça avec Hervé, mon ami dont je vous parlais tout à l'heure, en lui disant, mais parce que c'est quelqu'un de très édifiant, honnêtement, je le dis, il n'est pas là, c'est quelqu'un qui m'édifie. Je crois que c'est lui qui m'a appris à pardonner. Il me touche beaucoup par son humanité. Et donc, je lui dis, mais pour toi, ta vie, quelle est-elle? Puisque tu vas mourir, quelle est-elle? Qu'est-ce qui advient à la fin de ta vie? Tout ça, pourquoi? Pour le temps que tu vis ou pour autre chose de plus grand? Alors aujourd'hui, ça devient pour ses enfants, enfin depuis qu'il est papa, depuis quelques dizaines d'années, pour ses enfants, mais pas que. Et je pense qu'il y a une vraie question sur le point d'horizon vers lequel nous nous percevons, pèlerins ou non. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vous exprime à tous les quatre ma gratitude pour la fidélité que vous avez eue par rapport aux demandes que je vous ai adressées, que vous avez respectées. Je vous assure que ce n'est pas très fréquent dans la vie d'un animateur de conférence. Donc, merci beaucoup. Et donc, il nous reste quand même un tout petit peu de temps. Et la première chose, c'est de savoir si vous avez des questions à vous adresser les uns aux autres après vous être écoutés. Monseigneur Blanchet vient un petit peu de le faire vis-à-vis de André Comte-Sponville, mais je ne sais pas, il y a peut-être d'autres questions, sinon moi j'en ai quelques-unes. Alors moi je vais en poser une et puis voilà, il faut amorcer la pompe. Moi je voudrais demander, Monseigneur Blanchet a un petit peu abordé cette question tout à l'heure par rapport à ce que nous a dit André Comte-Sponville sur la question de la peur. Est-ce que l'espérance peut échapper à la peur? Je veux dire, est-ce que ce qui fait naître l'espérance peut être complètement différent d'un sentiment de peur, Monsieur Ben Ali? Peur de la mort, peur de la disparition, etc.
Oui, alors la peur, c'est une partie intégrante. C'est une... Oui, la peur de la mort, évidemment, c'est quelque chose, comme toutes les autres peurs d'ailleurs, hein, ne doit pas s'inscrire en faux, en contradiction avec l'espérance, justement. C'est ça le sujet. Dans la lecture, vous savez, dans le texte coranique, qui reste le premier fondement des musulmans, c'est un peu parfois c'est les montagnes russes, hein. C'est autant de l'espoir que de la crainte et l'espoir. Donc lire, c'est ne pas se fier simplement à l'espérance, et puis ne pas être un moteur, comme on disait tout à l'heure, et agir. Mais au contraire, c'est gérer ses émotions, c'est gérer cette crainte, et toujours avoir, in fine, cet espoir. Et par exemple, pour la mort, on parle de la mort comme étant la fin de ce passage dans ce bas monde, et le début dans la tombe, et ensuite la résurrection et l'éternité. Dans cette équation, si je parle, prendre la métaphore mathématique, donc le plus l'infini, c'est après la mort, c'est après la résurrection. Donc beaucoup de considérations à tort, justement, de cette vie terrestre. Quand on a une considération de la vie terrestre comme étant une vie, on va tous mourir, ça ne sert à rien de travailler, d'œuvrer, ça ne sert à rien de surmonter. Il est inutile d'œuvrer, il est inutile de construire, car tout disparaîtra. Et que seule l'éternité, donc l'au-delà, après post-résurrection, compte. C'est une erreur magistrale de la plupart des croyants, en islam en tout cas, car considérer ce monde d'ici-bas comme étant certes éphémère, mais inutile, dans lequel il ne faut pas espérer, c'est la pire des erreurs, c'est même le contraire qui est stipulé dans le Coran. Dans le Coran, il est dit que cette vie terrestre, où vivent des croyants et des non-croyants, que seul Dieu sera juge, mais que dans cette vie terrestre, il faut la passer de la meilleure manière possible. L'exemple de tout à l'heure avec planter, même quand c'est l'apocalypse, mais même dans la vie de tous les jours, la vie est ponctuée d'aléas, de vicissitudes, des hauts et des bas. Le Coran nous dit, la roue tourne, il y a des hauts et des bas. Et il y a un verset dans la sourate 2, la vache, où le Coran nous dit, et inévitablement, toutes les créatures connaîtront la peur, la crainte, la faim, la soif, tous ces sentiments qui justement sont contraires à l'espérance. Et tout le monde aura sa part dans ce bas monde, toutes les créatures dans l'absolu. Et in fine, vous savez le verset d'après, c'est lequel? Celui que je citais tout à l'heure, c'est « et annonce la bonne nouvelle à ceux qui n'oublient jamais que à la fin tout le monde mourra, mais aussi que nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons ». Autrement dit, pour passer cette vie éternelle qui est toujours décrite comme étant soit dans un châtiment douloureux en enfer, soit le paradis et les délices, soit les délices du paradis, soit les supplices de l'enfer, toujours dans cette dualité, non, c'est pas monochrome, c'est pas noir et blanc l'au-delà. L'au-delà, c'est plein de couleurs, plein de senteurs, plein de bonheur, plein de belles annonces et plein d'espérances. Et c'est ça que le croyant doit gérer lorsqu'il parcourt le texte révélé. C'est qu'il doit justement avoir son, non pas sa propre exégèse. Il s'inspire des exégèses des grands érudits de sa religion, du Talmud ou d'autres, des commentaires, mais il doit, dans son cœur, comme dit le Coran, « wafi anfusikum », et en vous-même, dans vos cœurs, chacun doit capter cette lumière divine qui lui donne de l'espérance. Donc il ne faut jamais être désespéré, mais pour autant, il ne faut pas baisser les bras. S'apitoyer sur son sort, être dans la victimisation, être dans le... Très souvent, c'est le cas. Les gens perdent espoir et ne broient que du noir. Ils font du mauvais sang. Et puis, c'est une vie sinistre dans le monde d'ici-bas qu'ils vont comparer à l'au-delà en disant, moi, je suis là. De toute façon, c'est de passage. À quoi bon avoir une belle vie? Je m'en remets à mon Dieu qui m'offrira une vie éternelle heureuse. La vie d'ici-bas est une vie on ne peut plus importante pour le croyant. Il doit la passer de la meilleure manière. Il doit réparer. Il doit colmater les brèches. Il doit avancer, apporter le maximum de bonheur. Ce n'est pas là un prêche que je fais. Hein. C'est simplement une synthèse des textes que nous avons et qui sont malheureusement lus de manière assez superficielle. Ou, pire encore, interprétés. Chacun l'interprète à sa manière. Vous savez, ce qui a fait beaucoup de mal dans les religions, je parle aussi de l'islam notamment, beaucoup de mal à ces religions monothéistes qui sont... issus de la même source, hein, et vous parlez tout à l'heure des nombreux points dénominateurs communs, c'est que les interprétations, ça c'est très important, toutes les exégèses, les interprétations et commentaires et gloses qui ont été faites à travers les âges de nos sources scripturaires, des fondements de la parole divine, si elle est retranscrite. Ce sont plus les commentaires qui ont aiguillé les gens que le texte lui-même. Et ça, c'est très, très, très problématique. Parce que quand des gens vivent leur foi à la lumière, non pas du texte révélé, mais des éventuels commentaires ou gloses ou exégèses faites par des hommes, aussi érudits qu'ils puissent être, mais des hommes qui ont interprété, analysé un moment, ça cause beaucoup de dégâts. Et nous le voyons à travers, je dirais, les âges. Donc, pour parler de cette crainte et de cette phobie, il faut nécessairement l'homme croyant a des craintes. La crainte de la mort, la crainte de l'au-delà, et cette crainte l'anime justement. Elle l'anime pour que sur cette terre, il ne parte pas avec des casseroles. Il ne laisse pas derrière lui pas d'injustice, pas de mensonge, pas de calomnie, pas de médisance, pas de nuisance à l'humanité, même à l'environnement. Dans le Coran, c'est martelé. Tu as la MNA, à l'homme, avec un H majuscule, dont plus de 50% sont des femmes, à l'humanité tout entière. Le Coran s'adresse en disant « Je vous ai créé les cieux et les terres, et vous avez un dépôt, une MNA. » Il ne s'adresse pas aux croyants, il s'adresse à l'humanité, à tous. Et cette, que ce soit l'environnement, la peur pour l'environnement, ce n'est pas, c'est pas propre aux écologistes, à ceux qui votent vert. C'est humain dans l'humanité. La peur aussi de nuire au prochain, nuire à son prochain, c'est quelque chose d'intrinsèque même dans la vie d'un croyant. Et quelle que soit son étiquette, entre guillemets, croyant, chrétien, catholique, juif, musulman, on le voit quand on confronte nos textes, on le voit moins quand on confronte nos comportements, parce qu'ils sont basés essentiellement, malheureusement, sur des exégèses, des interprétations, et non pas sur les sources qui sont unanimes sur le fait que l'espérance va avec la peur et que la peur avec l'espérance.
Une question à André Comte-Sponville. Est-ce qu'il faut être croyant pour penser que le mal ne l'emportera pas ?
C'est la mort qui l'emportera. Voilà, faut être croyant pour penser que l'amour est plus fort que la mort. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Et être athée, c'est penser le contraire. Penser que la mort est plus forte que l'amour. Non pas, bien sûr, qu'on ne puisse pas aimer les morts. On est des dizaines ici à faire l'expérience du contraire. Mais parce que rien ne m'autorise à penser que les morts, eux, peuvent nous aimer. Et donc, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine s'il n'y a rien après la mort. Et c'est pourquoi je ne suis pas venu vous proposer une espérance d'athée à la place d'espérance de croyant. Non, pas du tout. Moi, j'assume cette dimension de désespoir. Et ça ne m'attriste pas. Ça ne m'attriste pas. Parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Et j'en ai marre d'avoir peur de tout. Parce que tout espoir est déçu toujours. Monseigneur n'est pas allé jusque-là, mais oui, l'espoir est souvent déçu. Moi, je dis, je force un peu le trait, tout espoir est déçu toujours. Y compris, c'est ça le pire, quand il se réalise. C'est ce que disait Georges Bernard Shaw, il y a deux catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Et qu'on constate que ça ne nous apporte pas le bonheur qu'on en espérait. Voilà. C'est ça ma sensibilité d'athée. Donc ce n'est pas une espérance de plus. Non, là, on est vraiment différents. Vous êtes tous pareils du côté de l'espérance métaphysique et je suis complètement de l'autre côté. Mais si on peut communier, ce n'est pas dans l'espoir, c'est dans l'amour. C'est dans le courage, c'est dans la justice. Ce qu'on appelle les justes, ce n'est pas ceux qui espèrent la justice, c'est ceux qui agissent pour la justice. Espérer, n'importe qui peut le faire. Espérer la paix, c'est facile. Il ne s'agit pas d'espérer, il s'agit d'agir. Vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, ce fameux traité du désespoir et de la béatitude, en deux tomes, l'une des premières lettres de lecteur que j'ai reçues m'était envoyée par un psychanalyste que je ne connaissais pas, qui me disait qu'il était d'accord avec ma critique de l'espoir, parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Et c'est pour échapper au suicide qu'on croit en Dieu. Voilà. Alors, si vous avez le choix entre le suicide et la religion, mais bon sang, continuez à croire en Dieu. Moi, je ne peux pas vous désespérer, je ne peux pas vous faire perdre la foi. C'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais oui, on se tue par déception. Il se trouve que ma pauvre mère s'est suicidée quelques années après cette lettre de psychanalyste. Et quand elle est morte, je dis, ben voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Elle s'est tuée par déception. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Si on a compris quelque chose, c'est ça. Sauf que l'erreur de ma pauvre mère, c'est quand, et de beaucoup de gens, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? Ça ne veut rien dire, la vie a fait ce qu'elle peut. Moi, mon idée, c'est que lorsque la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, c'est-à-dire à peu près toujours, ça ne veut pas dire que la vie a tort. Ça veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers. Et qu'on ne peut vraiment aimer la vie telle qu'elle est qu'à condition de cesser, qu'elle soit d'espérer, qu'elle soit justement autre chose que ce qu'elle est. Voilà, c'est ça. Et donc, aimer la vie telle qu'elle est, aimer le réel tel qu'il est, c'est ça, pour moi, habiter le royaume. Mais je vous accorde qu'il y a une dimension de moins, c'est une dimension d'espérance. Mais alors, pour les chrétiens qui sont ici, ce sera mon dernier mot, vous et moi, Monseigneur, vous et moi, nous ne sommes séparés au fond que par ce que nous ignorons. Puisque ni vous ni moi, nous ne savons si Dieu existe ou pas. Vous y croyez, je n'y crois pas, mais ce n'est pas un savoir, c'est une foi. La foi est une grâce en bonne théologie chrétienne, ce que le savoir ne peut pas être. Donc nous ne sommes séparés que par ce que nous ignorons, donc nous sommes bien séparés en effet, mais il ne serait même pas raisonnable d'accorder davantage d'importance à ce que nous ignorons et qui nous sépare, qu'à ce que nous connaissons d'esprit et des cœurs qui nous rapprochent. À savoir que ce qui fait la valeur d'une vie d'homme, ce n'est pas le fait qu'il croit ou pas en Dieu, c'est la quantité d'amour, de justice et de courage dont il est capable. Pour dire la même chose autrement, vous et moi, Monseigneur, nous ne sommes séparés que par 3 jours. Les 3 jours qui séparent la crucifixion de la résurrection. Alors dans la mesure où ces 3 jours s'ouvrent par la résurrection sur l'éternité, ça fait une sacrée différence, je vous l'accorde, ou une différence sacrée que je ne prétends pas annuler, mais là encore, est-il raisonnable, au nom de ces 3 jours qui nous séparent, d'annuler les 33 années qui précèdent, dans le souvenir ému desquels nous pouvons, vous et moi, communier?
Merci. Merci beaucoup. C'est très stimulant d'échanger avec vous. Simplement... Moi, je pense que vous m'autoriserez à espérer qu'un jour, dans l'au-delà, c'est mon espérance, nous serons réunis en paradis.
Eh bien, je vous remercie de l'espérer. Et vous me permettrez d'en douter.
Alors, je vais quand même essayer de fonder un tout petit peu mon espérance. En tout cas, de dire aussi une page d'évangile qui, à mon avis, peut nous faire nous rejoindre. C'est que vous avez beaucoup parlé sur la charité, sur l'amour, sur la qualité d'être dans l'instant présent, et qui quand même se qualifie avec l'amour. Dans la page qui est très connue de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 25, vous savez ce passage où on dit « j'avais faim ». Le roi accueille les bien-aimés en disant « J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais faim, vous m'avez donné à boire. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez visité. » Et ce que j'aime le plus dans cette page d'évangile, si je peux dire comme ça, c'est que les gens n'ont pas répondu, enfin ont répondu « Mais quand ? Quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avoir donné à manger ?» Ils sont étonnés de ce que le roi dit d'eux. Autrement dit, pourquoi ça me plaît? C'est parce qu'ils ne l'ont pas fait, ce dont parfois on est suspect, je pense tous les trois, peut-être moins, je crois, nos frères et sœurs juifs à cause de la fidélité à la parole et de l'accomplissement de la promesse, qui a un autre rapport à la parole. Mais on peut être suspect, croyant, de vouloir gagner, entre guillemets, vouloir gagner notre paradis. Autrement dit, faire de bonnes actions pour gagner le ciel. Et à ce moment-là, je pense qu'on est complètement à côté de nos pompes. Parce que ce que nous dit l'Évangile, c'est cet étonnement de ceux dont le roi dit « Voilà ce que tu as fait ». Et en fait, ces gens sont devenus bons sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et j'espère que nos religions permettent cela, j'espère que l'athéisme permet cela, et c'est là que tout se joue. Et peut-être j'évoque ici simplement le curé d'Ars dont nous fêtons le centenaire de la canonisation cette année, le pape Léon XIV l'a manifesté ces quelques temps, il paraît, je ne sais pas si c'est une petite histoire, que quelqu'un lui aurait dit à la fin de sa vie, et si Dieu n'existait pas, qu'est-ce que vous diriez si au moment de mourir, vous vous rendez compte que Dieu n'existait pas? Et le curé d'Ars aurait répondu, eh bien, je serais heureux d'avoir appris à aimer. Ça, je trouve que c'est une belle réponse.
Alors, nous avons épuisé notre temps, mais pour quand même tenir une promesse, on va prendre deux questions de la salle. Il y a deux micros, donc on va en prendre une de chaque côté. Étant donné l'heure, je vous demande de vraiment de poser une question et, si possible, de l'adresser à un des orateurs. Voilà.
Bonjour. J'aurais une question pour André Comte-Sponville. J'espère que je prononce bien. Il est écrit 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Et j'associe l'espoir, l'espérance au manque de peur. Qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cela, sachant que vous vous associez l'espérance à la crainte?
Oui, ben, je vous remercie de la question, mais effectivement, ça me paraît difficile d'espérer sans avoir peur. Ou alors, c'est un autre mot. C'est ce qu'on appelle la confiance. Le très bon élève qui prépare le bac, il n'espère pas l'avoir. S'il a eu 20 dans toutes les matières depuis le début, il a confiance. Donc oui, ça peut exister. Et donc, moi, je dirais, dans mon langage daté, je dirais plutôt, ayez confiance. Et donc, quand Jean-Paul II disait, n'ayez pas peur, si ça veut dire, n'ayez pas peur, espérez, ça me paraît contradictoire, parce qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Si ça veut dire, n'ayez pas peur, ayez confiance, ça me paraît davantage tonique, et je pense que le vrai message de Jean-Paul II était de ce côté-là. Donc moi, je suis pour la confiance, je ne suis pas pour la désespérance, la mélancolie, la tristesse, je suis pour la joie et l'amour, comme tout le monde, mais je reste quand même attaché à cette idée, parce que je crois que c'est le vrai concept de l'espoir, qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Alors c'est vrai que les religions, par la foi, parce que la foi, c'est la confiance, en vérité, essaye d'avoir, si je veux dire, l'espérance, l'argent de l'espérance, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre, et avoir à la fois l'argent de l'espérance et se libérer du poids de la crainte. Bon, moi, je leur laisse penser ça. Voilà. Quand même, un mot, hein, parce qu'en plus, il y a un évêque ici, mais moi, je suis confronté à des chrétiens ordinaires, et je constate avec un peu de surprise pour le lecteur de Pascal que je suis, que les chrétiens ont l'air de croire qu'on ira tous au paradis. Excusez-moi, mais ça c'est Paul Naref qui l'a dit. C'est pas Jésus. Et je vous rappelle que dans les évangiles, il est écrit l'inverse. La porte est étroite. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et donc là, vous avez une peur que je n'ai pas. Parce que pour moi, athée, la mort, c'est rien. Ben, je n'ai pas peur de rien. Voilà. Et donc, je suis parfaitement serein face à l'idée du néant. Ça ne m'empêche pas d'avoir des peurs, donc des espoirs concrètement. Dès qu'un de mes gamins est malade, j'espère qu'il va guérir, comme tout le monde. Mais voilà, c'est ça, pour moi, la vraie question. Donc, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. D'abord, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas de crainte sans espoir. Comme on est plein de trouilles, on est plein d'espoir. Il ne s'agit pas de cesser d'espérer. Il s'agit simplement d'espérer un peu moins, puisque espérer, c'est désirer ce qui n'est pas de nous, désirer ce qu'on ignore, désirer ce qu'on n'a pas. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit d'espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus.
Merci beaucoup. On va prendre une question de ce côté-ci, non ? Il n'y en a pas. Ok. Une question au fond.
Bonjour. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas un petit mélange entre espoir et espérance dans votre propos? Parce que j'ai l'impression que vous interchangez les termes. Dans votre discours, vous utilisez espoir tout le temps pour étayer votre propos. Mais je ne suis pas sûr que ce soit pareil. Peut-être qu'il faudrait se dire comment on distingue l'espoir de l'espérance. Et à partir de là, pourrait se comprendre davantage.
Je conclue que vous êtes arrivé un peu en retard, parce que c'est ce que j'ai dit au début de la rencontre. Et donc j'ai rappelé la différence entre l'espérance qui est une vertu et l'espoir qui est une émotion ou un sentiment, mais j'ai dit qu'en tant qu'athée, l'espérance comme vertu théologale, je n'y crois pas. Autrement dit, ce que vous appelez votre espérance, de mon point de vue d'athée, ce n'est qu'un espoir parmi d'autres. Et je suis convaincu que c'est notamment parce que vous avez peur de la mort, peur de la solitude, peur de la déception, que vous vous rassurez par la foi. Mais je ne vous le reproche en rien, ça ne me dérange pas du tout. Continuez, allez dans la paix du Christ.
Merci.
Eh bien oui, il est surprenant de terminer par ces mots, André Comte-Sponville, dans votre bouche, mais nous nous en réjouissons néanmoins. Et effectivement, allons poursuivre cette journée dans la paix du Christ. Merci à tous les quatre, c'était un beau moment. Avec beaucoup d'échanges et d'enrichissements mutuels. Voilà. Bonne fin de journée à tous et merci de votre présence. Oui, effectivement, je rappelle que les livres d'André Comte-Sponville sont disponibles au stand de librairie.